Alors, depuis ce matin, c'est toujours le dimanche de Pâques. Ça devrait tenir jusqu'à ce soir, minuit. Et le sujet est vaste et on peut y revenir encore, bien évidemment. Alors, j'ai souhaité revenir à nouveau sur des expériences qui ont eu lieu pendant la fête de Pâques. Ce matin, nous avons parlé de la première Pâques, nous avons parlé de cette réalité d'un Dieu qui peut s'occuper de nous, qui sait tellement bien s'occuper de nous, et lui faire confiance, c'est assurément le meilleur choix, comme nous l'avons chanté dans le deuxième cantique, c'est vraiment le meilleur choix. Mais dans le fond, vous allez comprendre avec moi cet après-midi que tout se révèle à Pâques. D'ailleurs, ça fera un beau titre pour la prédication cet après-midi, « Tout se révèle à Pâques ». Tout se révèle à Pâques. Hors contexte, les gourmands se révèlent à Pâques. Hein. Ouais. Mais dans ce contexte biblique, vous allez voir avec moi qu'il y a eu des événements surprenants, ces fameux jours de fête, ces fameux jours de Pâques. La Pâques en Israël est une fête qui durait plusieurs jours et c'était effervescent, c'était véritablement intense. Et dans ces fêtes-là, chacun pouvait y trouver son compte, puisqu'on montait en général à Jérusalem pour célébrer dans le temple cette belle fête de Pâques. Alors, on va lire un texte qui se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, à partir du verset 41. Luc, au chapitre 2, et au verset 41. On retrouvera d'ailleurs dans tous les textes que l'on va partager, on retrouvera Jésus et vous allez voir qu'à chaque situation, chaque Pâques, Jésus révèle quelque chose de sa personne. Il révèle un peu plus qui il est et vous le comprendrez ce qu'il est venu faire. Donc Luc chapitre 2 verset 41. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi les parents de leur connaissance. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Et quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Puis, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis, et sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Amen. Lorsque j'étais enfant, j'ai eu l'occasion de faire un petit peu de photos avec mon père. Pas prendre la photo, mais révéler les photos. Et il avait aménagé sa salle de bain avec un banc de reproduction, une lumière rouge, et il faisait du développement avec différentes bassines, révélateurs, fixateurs, pour finalement tirer ses photos de ses fameux négatifs ou autres. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant, très particulier d'ailleurs, le processus, la manière dont les choses se font. Et vous remarquerez, si vous avez déjà vu cela, ou en tous les cas, sachez que c'est très particulier lorsque, ça se fait plus maintenant avec le numérique, mais lorsque vous sortiez une pellicule photo, il fallait que le noir soit absolu. Quand vous sortiez de film, pour peu qu'il y ait un peu de lumière, ça voilait les photos et c'était plus utilisable. Et une fois que vous aviez déroulé votre négatif, ça passait aux bancs de reproduction et là, ça flashait sur des grandes feuilles du ce qu'on appellerait du papier à révéler, hein, du papier photo. Et ensuite, une fois que la lumière avait bien flashé dessus, vous ne voyez absolument rien. Vous êtes en lumière rouge, hein, donc vous voyez une feuille qui est apparemment blanche ou couleur un peu fade, un peu crème. Et puis vous allez la mettre dans un premier bac, c'est un produit spécial, hein, faut pas boire ça, hein, produit spécial, le fameux révélateur. Puis vous attendez un moment avant de manipuler des pinces, parce que c'est quand même pas conseillé de toucher ça avec les doigts. Vous attendez un moment et puis petit à petit la photo sort. C'est très, très intéressant de voir ça. Vous avez l'image qui sort. Sauf que, si vous n'avez pas l'habitude, vous vous rendez compte qu'il faut la laisser un certain temps, pas trop. Si vous la laissez trop, ça va noyer toute l'image et finalement, c'est totalement inutilisable. Les blancs vont disparaître au profit du noir. Donc, vous regardez. Et puis, quand il vous semble que la photo est suffisamment bien révélée, vous la sortez et vous la mettez dans un autre bain. C'est du fixateur. Ça va arrêter l'évolution du produit. Bref, très intéressant de se dire que sur une page blanche, tout à coup peut se révéler quelque chose. Et je voudrais qu'ensemble, cet après-midi, on puisse voir que ces fêtes de Pâques ont été comme des pages blanches que Jésus a utilisées pour se révéler. Et l'une et l'autre vont nous révéler un caractère, une particularité de Jésus. Jésus qui n'est autre que le Fils de Dieu. La première fois qu'on rencontre Jésus dans une fête de Pâques, c'est le texte que je vous ai lu. Il a 12 ans, il est monté à Pâques avec ses parents, certainement que ses parents avaient l'habitude de monter à cette fête, certainement qu'il y a été d'autres fois, mais si la Bible n'en parle pas, il me semble que c'est que ça n'a que très peu d'importance. En fait, notez une chose, tout ce qui est dans la Bible a de l'importance. Et nous, il nous arrive quelquefois de parler pour rien dire. Ça vous arrive? Pas trop souvent, j'espère. Hein, on parle pour rien dire. La discussion est terminée, on se dit « bof ». Voilà. Dieu n'a jamais parlé pour rien dire. Tout ce qu'il a dit avait un but, c'était très précis, il fallait toucher quelque chose, atteindre une cible. Donc, il est évident que avant l'âge de 12 ans, les enfants ne participaient que très peu aux fêtes religieuses parce qu'en Israël, à cette époque-là, dans le judaïsme, 12 ans, c'est l'âge où l'enfant entre dans la vie religieuse. Alors, l'ont-ils amené avant? L'ont-ils laissé à des oncles, à des tantes, que sais-je, à des personnes de la famille pour ne pas lui faire faire de voyage? On ne saura jamais. Je pars du principe que certainement il a dû les accompagner quelquefois parce que vous avez remarqué que dans la troupe, dans la caravane, il y avait apparemment d'autres familles, il pouvait y avoir d'autres enfants et rien de mieux pour les enfants que les voyages. Ça leur plaît les voyages, hein, ils sont tout excités. Quand vous partez en vacances avec vos enfants, vous les mettez dans la voiture, ils sont excités. Et vous espérez qu'au bout d'une demi-heure, ils dorment. Mais comme c'est les vacances, ils ne dormiront pas. Non, ils ne dormiront pas, donc vous allez entendre bien du bruit jusqu'à ce qu'ils tombent de fatigue. L'excitation du voyage, c'est la fête, on profite. Et dans ce contexte, Jésus monte à Jérusalem et la phrase qui m'intéresse, finalement, je rejoins une idée avec une phrase qui m'intéresse. Il nous est dit, dans ce texte, qu'ils ont participé à la fête et qu'une fois que la fête a été terminée, il était temps de rentrer à la maison et on a tous repris la route. Et on ne s'est pas inquiété de savoir où était Jésus parce que ben, il y avait du monde, mais il n'est pas là, mais t'inquiète pas, il est avec ses copains, il est quelque part ailleurs. Etc. Donc on est parti. Et ce n'est que le soir qu'on a réalisé qu'il n'était pas là. Et dans le fond, l'Écriture dit ceci. Ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Elle m'interpelle, cette phrase, cette expression, l'enfant Jésus. Parce qu'aujourd'hui, dans la tradition chrétienne, on parle de l'enfant Jésus. On en parle. Sauf que je remarque que ce jour-là, on a perdu l'enfant Jésus. Et je veux faire une relation entre ce que je vous dis et cet événement. Je peux vous certifier qu'à Pâques, on a perdu l'enfant Jésus pour trouver quelqu'un d'autre. L'enfant Jésus a disparu à Pâques. À l'heure actuelle, quelque part dans le monde, selon où vous habitez, selon les croyances, vous irez dans des pays où on adore des dieux enfants. Ce sont des enfants dieux. Soit ils vivent encore, soit ils ont vécu. Et on sait très bien que dans certains pays, notamment dans le bouddhisme et du côté de l'Inde, on croit toujours en une forme de réincarnation de Dieu. Et il arrive quelquefois qu'on se dit, on jette son dévolu sur un enfant et on dit c'est la réincarnation de... Et il devient un dieu vivant. C'est un enfant, mais il devient un dieu vivant. Dans le christianisme, vous ne trouverez jamais le culte d'un enfant dieu. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La Bible n'en parle jamais. Et j'aime cette idée que finalement, c'est au moment de la fête de Pâques qu'on a perdu l'enfant Jésus. Alors les parents, ils ont été aux 400 coups, vous l'imaginez, le soir, mais où est-ce qu'il est? On a cherché de partout, on ne l'a pas trouvé. Imaginez un peu, quelle aventure. Ça vous est, vous qui avez des enfants, ça vous est déjà arrivé de les perdre dans une foule, un magasin ou quelque chose? 2 minutes, 3 minutes, de les perdre de vue, ça vous est déjà arrivé? Vous avez eu peur? Ça fait peur, hein? Ça fait peur quand vous les perdez. Quand vous allez dans des grosses manifestations et vous avez dans la région, on pourrait parler puisque au mois de février, c'était l'époque février-mars, vous allez à Nice au moment du carnaval, il y a une foule impressionnante. Vous amenez vos enfants ou les grands-parents amènent les petits-enfants. J'aime autant vous dire qu'ils les tiennent bien, hein, parce que là, si ça part, avec le monde qu'il y a, mais c'est terrible pour retrouver un enfant là-dedans. Imaginez un peu. On se rend compte qu'on a perdu son enfant. Alors ils repartent à Jérusalem. Et je note qu'ils ont cherché pendant 3 jours. Je ne sais pas dans quel état ils devaient être. Mais j'imagine qu'on aurait pu les ramasser à la cuillère. Hein. À l'époque, il n'y avait pas les alertes enlèvement d'enfants qu'on peut faire aujourd'hui. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas la radio, il n'y avait pas la police comme on l'a aujourd'hui, où on peut lancer des recherches. Ils vont chercher dans une ville qui est noire de monde. Une ville qui grouille encore de monde. Est-ce que tout le monde est parti? Certainement pas. Il reste du monde et ils vont le chercher et il n'y a rien à faire. On ne le trouve pas. Ce que je note là aussi, c'est qu'on l'a trouvé au bout de 3 jours. Et où est-ce qu'on l'a trouvé? Dans le temple. Ce n'est pas le lieu privilégié pour un enfant. On dirait l'aire de jeu. On dirait le stade, on dirait devant la télé, la Wii ou un jeu vidéo, quelque chose comme ça. On n'imagine pas un enfant de 12 ans dans une église, dans un temple, dans une synagogue. Ça arrive, évidemment, mais ce n'est pas commun. Alors on l'a cherché partout, on imaginait le trouver. Et bizarrement, on n'imaginait pas le trouver, finalement, dans le seul endroit où il pouvait être. Au moins, sa mère devait le savoir. Elle aurait dû s'en douter. Son père adoptif, Joseph, lui, aurait dû quand même savoir parce que ce Jésus n'était pas venu de façon très habituelle. Il est né de la Vierge Marie alors qu'elle était fiancée à Joseph, alors qu'il n'avait jamais eu de rapport entre eux. Elle est tombée enceinte. La Bible nous dit, un ange le lui a révélé, et la Bible nous dit que cet enfant a été conçu du Saint-Esprit. Il a fallu expliquer ça à Joseph, qui aurait pu douter un moment, mais à nouveau, Dieu vient vers cet homme et le rassure, et lui dit, ne t'inquiète pas, elle ne t'a pas trompé, elle n'a pas connu un autre homme, c'est divin, et ils ont gardé ces choses en eux. Mais quand vous perdez votre enfant à Jérusalem, à l'âge de 12 ans, à l'heure, au moment où il peut participer activement à la vie religieuse de son temps, c'était rien de plus normal que de le trouver dans le temple. Je note aussi que quand ils l'ont trouvé dans le temple, ils étaient un peu furieux quand même. J'imagine qu'ils ont dû être soulagés, mais irrités malgré tout. Mais la Bible dit que tous ceux qui l'entendaient, parce qu'il écoutait et il interrogeait les docteurs de la loi, tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. La Bible ne nous dit pas que Jésus avait un QI au-dessus de la moyenne. Ce n'était pas un surdoué, comme on peut l'entendre au sens naturel du terme, mais c'est ni plus ni moins le Fils de Dieu. Donc qu'il réponde avec intelligence, qu'il réponde avec finesse, qu'il réponde avec sagesse, qu'il réponde avec une forme de révélation. Quoi de plus normal ? C'est le Fils de Dieu. Et on comprend l'étonnement de tous. Même si Marie et Joseph ont pu être agacés de cela, le texte termine en disant « Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur ». La première chose que j'aimerais vous dire, c'est que Jésus a surpris tout le monde. Et ce jour-là, Jésus n'est plus un enfant. Il entrouve, si vous voulez, une fenêtre, et l'enfant Jésus n'existe plus à Pâques. À Pâques se révèle un autre Jésus qui, il faudra encore attendre quelques années, se révélera au monde entier quand il aura l'âge de 30 ans. Finalement, de Jésus, de son enfance et de sa jeunesse, on ne sait quasiment rien. On sait ce qui s'est passé à sa naissance, on sait ce qui s'est passé à 7 jours, quand il a été circoncis et que plusieurs ont prophétisé en prenant l'enfant Jésus dans leurs bras. On connaît cette histoire de Jésus à 12 ans et vous n'avez plus rien jusqu'à 30 ans. Et à 30 ans, vous retrouvez Jésus et à nouveau, vous le retrouverez finalement dans une situation où on parlera de Pâques encore. Jésus n'a pas fait que monter à Jérusalem que pour les fêtes de Pâques. À l'âge de 30 ans, il a commencé son ministère, se révélant au monde comme l'envoyé de Dieu, le Messie, le Sauveur de l'humanité. Et il nous est dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, qu'il montra un jour et plusieurs jours à la fête de Pâques. Il y montra de façon très discrète tout d'abord, puisqu'il avait déjà accompli quelques miracles. Et il faut vous dire que Jésus va rentrer dans une espèce de conflit ouvert avec les chefs religieux juifs de son temps. Jésus va s'opposer, non pas à ce qu'ils enseignent, mais de fait, il s'oppose à eux parce que lui parle, c'est le témoignage d'ailleurs de ces gens-là, comme ayant autorité, il parle avec puissance et il fait des miracles, ce que d'autres ne faisaient pas. Ça a tellement plu, ça a tellement séduit, ça a tellement galvanisé la foule que la Bible dit que nombreux étaient ceux qui croyaient en lui. Imaginez un peu cette espèce de tension qui s'installe. Est-ce que ça va soulever le peuple politiquement parlant? Est-ce que ça va mettre comme ternir l'autorité de ces chefs religieux? Jésus les a affrontés plusieurs fois. On arrive au chapitre 7 de l'évangile de Jean, mais il y a déjà eu pas mal de batailles. Il a changé l'eau en vin, Jean chapitre 2. Il a amené un chef religieux juif à s'interroger sur ses vraies convictions, Nicodème, Jean chapitre 3. Il va rencontrer une femme qui est dépeinte comme une samaritaine. Il va lui annoncer l'évangile. Il casse les codes en parlant à une étrangère, mais en lui révélant le salut, l'éternité. Et cette femme est toute heureuse de la révélation. Jean chapitre 5, il guérit un infirme autour de la piscine de Bethesda. C'était un jour de sabbat et on va commencer à l'acculer. Tu n'as pas le droit, on ne guérit pas le jour de sabbat. On respecte la loi, c'est la loi de Moïse, on ne transgresse pas les commandements. Et on arrive au chapitre 7. On arrive au chapitre 7 et Jésus va se présenter comme un maître. On a perdu l'enfant Jésus, mais au profit d'un maître. Et c'est tellement mieux. Je vous encouragerai à croire en un Jésus qui n'est pas resté enfant, mais qui est devenu un maître, comme ils l'appelleront eux-mêmes, un rabbi, quelqu'un qui connaissait la loi et qui pouvait à la fois l'interpréter, mais la mettre en œuvre. Est-ce que vous voulez lire avec moi quelques versets du chapitre 7 de Jean ? Par exemple, au verset 10. « Lorsque ses frères, vous comprenez que ce sont ses demi-frères, furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. » Verset 14, « Vers le milieu de la fête, fête de Pâques, Jésus monta au temple et il enseignait. » Verset 25, « Quelques habitants de Jérusalem disaient, « N'est-ce pas là celui qu'ils cherchent à faire mourir ? Et voici, ils parlent librement et ils ne lui disent rien. Est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ. » Verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore descendu, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Il a déjà fait des miracles. Il a déjà soulevé ses adversaires contre lui. Mais j'ai envie de vous dire, les faits sont là. Et les faits sont incontestables. Vous pouvez contester beaucoup de choses. Mais il y a des événements qui sont certifiés et vous ne pouvez pas les contester. Soit vous êtes pour, soit vous êtes contre, mais vous ne pouvez plus dire ça n'existe pas, si c'est devant vos yeux, si c'est réel. Et tous ces miracles rapportés dans les évangiles ont amené des centaines, des milliers à la foi, parce que c'était tellement réel, c'était tellement là devant les yeux qu'on ne pouvait pas se voiler la face. Ce n'était pas possible. Jésus est venu éclairer les hommes. C'est le contexte de ce chapitre 7. Il est venu révéler l'amour du Père, mais il est venu mettre à jour aussi les menteurs. Il est venu mettre à jour ces religieux hypocrites. Vous vous rendez compte que Jésus s'adressera à plusieurs d'entre eux, avec beaucoup d'autorité. Hein. Il va les secouer en disant, mais lequel d'entre vous, parce qu'on le reproche, on lui reproche d'avoir fait un miracle le jour du sabbat. Et lui va leur dire, mais lequel d'entre vous, s'il a un âne ou un bœuf, qui a soif le jour du sabbat, ne va pas le détacher pour l'amener boire, alors que c'était interdit. Et on laisserait, ou alors, si un de ces animaux domestiques est tombé dans une fosse, il va essayer de l'en retirer. Et moi, je ne pourrai pas guérir quelqu'un malade le jour du sabbat. Il va quand même les confronter à leur réalité. Il va quand même essayer de leur faire comprendre qu'on ne peut pas être hypocrite. Ou alors on est un menteur. Ou alors on est un tricheur. Mais si on est vrai, on est vrai jusqu'au bout. Et Jésus a en face de lui des oppresseurs qui vont essayer de mettre la main sur lui. Voyez ce que la foule, quelques habitants de Jérusalem disaient, n'est-ce pas celui qu'il cherche à faire mourir? Et c'est curieux, il est dans le temple et il parle comme il veut. Il parle librement. Plusieurs fois, les Juifs ont voulu arrêter Jésus. Et vous savez ce qui les en a empêchés? Une seule chose, la crainte du peuple. C'est la seule chose. Ils ont craint le peuple. Et ils se sont dit, si on l'arrête, le peuple va se soulever. Parce que le peuple avait vu en Jésus, non pas un homme, non pas un révolté, non pas un révolutionnaire, mais le Messie, celui qui était roi, digne d'être couronné roi, quand Jésus arrivera à la dernière Pâque qu'il célébrera. À Jérusalem, on a bien célébré ce Jésus entrant dans Jérusalem, ce qui nous est resté dans nos traditions comme la fête des rameaux. On a célébré ce Jésus. Il était digne d'être roi, digne d'être roi. On retrouve un maître que personne ne peut contester et personne ne le convaincra jamais d'une faute, quelle qu'elle soit. Un jour, il s'adressera à ses oppresseurs, à ceux qui veulent l'arrêter, le faire taire, en disant, mais lequel d'entre vous me convaincra de péché? Vous m'arrêtez, pour quelle faute m'arrêtez-vous? Personne n'a été capable d'en dire une seule. Quand il a été devant Pilate, devant le gouverneur pour être jugé, on a fait venir des faux témoins pour dire, il a profané le temple, il a mal parlé contre la loi de Moïse, etc. Mais c'était les faux témoignages, ils arrivaient à se contredire les uns des autres. Impossible de trouver une faute. Ce n'est pas la même chose chez nous. S'il fallait trouver des fautes chez nous, je pense qu'on pourrait les écrire à la pelle. Et même à la pelleteuse, non? Il y en aurait beaucoup. Le godet, il serait large. Certainement qu'il y en aurait. Mais Dieu, dans sa grâce, nous a fait un cadeau immense en nous donnant celui qui n'avait jamais fauté, jamais péché. Un seul est dans cette situation-là, c'est Jésus. On retrouve Jésus à nouveau à une fête de Pâques et on va comprendre ce que Jésus est venu faire. C'est dans l'évangile de Luc, c'est la dernière Pâque que Jésus va prendre. Donc il en a pris trois avec ses disciples. Et lors de cette dernière Pâque, il va y avoir un événement particulier dans l'évangile de Luc, au chapitre 22. Luc, chapitre 22, au verset 1er. Il est dit ceci, « La fête des pains sans levain appelée la Pâque approchée, Et les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de le faire mourir, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. À Pâques, on a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Est-il possible de vendre quelqu'un pour de l'argent ? Peut-on vendre un être humain pour de l'argent ? Je ne vous apprendrai rien en vous disant que le commerce humain existe. Malheureusement, l'esclavage humain existe. Et la vie d'un homme, la vie d'une femme est souvent monnayée. On a vu circuler il y a quelque temps dans nos journaux ce que valait une femme dans certains pays, qu'elle ait moins de 12 ans, de 12 à 15 ans, de 15 à 20 ans, de 20 à 30 ans, de 30 à... C'est sordide. C'est sordide. Ce que ça peut valoir. Peut-on, est-il possible de vous estimer dans une valeur d'argent? C'est impossible. Qui peut dire, ben voilà, Stéphane, tu vaux tant. Qui peut dire ça? Personne ne peut le dire. Et là, on s'est mis d'accord. Et quand un traître, Judas était un des douze apôtres, a été séduit par l'idée d'avoir de l'argent, et il s'est laissé égarer, et cela a mis du temps. Évidemment, on imagine que bien des fois, il aurait pu se ressaisir, mais il était voleur. La Bible dit qu'il aimait l'argent, il trichait, il volait. Et quand, il s'est dit qu'en livrant Jésus, ce serait une belle prime, certainement. Alors il s'est mis d'accord avec ses religieux. En fait, on lui a donné 30 pièces d'argent. 30, pourquoi pas 35? Pourquoi pas 40? Pourquoi pas 12? Pourquoi pas 15? Et une valeur à cela que la Bible vous révèle. La Bible nous dit dans le livre de l'Exode, et je vais vous le citer au chapitre 21, il est dit ceci, et au verset 32, « Mais si le bœuf frappe un esclave, homme ou femme, et le tue, accident de travail, le bœuf s'emballe, il renverse l'esclave qui meurt, ou alors est-ce un bœuf qui est errant et qui vient, et on sait qui est le propriétaire, si le bœuf frappe un esclave, homme ou femme, on donnera 30 pièces d'argent au maître de l'esclave, et le bœuf sera lapidé. » On a estimé que l'esclave valait 30 pièces d'argent. Et ce n'est pas par hasard que Jésus a été vendu pour 30 pièces d'argent, parce que dans un texte prophétique, Zacharie reviendra sur cet événement. On est avant la venue de Jésus, évidemment. On est quelques siècles auparavant, 4 siècles auparavant. Il est dit ceci dans le livre donc de Zacharie, chapitre 11 et verset 12. « Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas. » Et ils pesèrent pour mon salaire 30 sicles d'argent. Parole prophétique. Finalement, on s'est dit que Jésus valait 30 pièces d'argent. Vous savez qu'aujourd'hui, si vous êtes assuré, vous valez une certaine somme d'argent. Un employé qui meurt sur un chantier ne sera pas indemnisé, sa famille ne sera pas indemnisée comme un ingénieur. Parce que on a calculé son travail, son intelligence, son instruction et tout le profit qu'il rapporte, donc on fait une quote-part et ça vaut tant. Et pour tous les métiers, c'est comme ça. On se dit qu'on est dans le domaine de l'assurance. Mais là, on est dans le domaine du marchand d'esclaves. 30 pièces d'argent. Voilà ce qu'on a dit de Jésus. Il ne vaut pas plus que cela. Quelque part, ça me rassure. Vous savez en quoi? Tout simplement dans le fait que si Jésus s'est fait à accepter d'être livré pour nous, esclave pour nous, c'est parce qu'il savait que lui, il était réellement libre. Et qu'entre tous les deux, entre Jésus, vendu 30 pièces, ou Judas, recevant 30 pièces d'argent, moi, j'ai vite fait mon choix pour me dire qui est l'esclave. C'est Judas qui est esclave, c'est pas Jésus. Et Jésus, s'abaissant au rang de l'esclave, ben finalement s'identifie avec nous. Il s'est identifié avec vous. Cet homme, fils de Dieu, qui ira mourir sur la croix, portera vos fautes. Et là, il a décidé de vous ressembler en donnant sa vie à la croix. Certains ont vu l'image de la crucifixion comme quelque chose de trop lointain par rapport à leur vie, par rapport à ce qu'ils vivent. Et ils se disent, mais Dieu ne me comprend pas, Dieu ne sait pas ce que je vis, on ne vit pas dans le même monde, on est totalement à l'opposé l'un de l'autre. Ce texte est là pour vous dire que les ennemis de Christ n'ont pas voulu donner plus cher que 30 pièces d'argent, le prix de l'esclave. Si quelqu'un vous disait que vous ne valez pas plus que cela, ben réjouissez-vous. Ça veut dire que Dieu vous a bien compris et qu'il a bien pesé ce que vous êtes. Et dans sa grâce infinie, il a décidé de vous bénir. Jésus a accepté le salaire de la souffrance. Hein, parce que derrière ces 30 pièces, Judas le rencontrera après la dernière Pâque, quand ils sont dans le jardin de Gethsémané. Et là, entouré de gardes et de soldats, il va l'embrasser. Il avait dit, celui que j'embrasserai, c'est lui qui est le Messie, c'est lui que vous cherchez. Et dans cette nuit noire, bien sombre et lugubre, on est venu et on a arrêté Jésus. Et tout cela a conduit à un procès vite fait, mais à des injures, à des crachats, à du fouet, à la couronne d'épines, à des clous dans les mains et les pieds, la lance sur le côté, la mort, des heures et des heures de souffrance. Jésus a payé le prix de la souffrance, du sacrifice, de la croix, on l'a chanté tout à l'heure. Et il l'a fait pour vous sauver, vous. Il l'a fait pour vous délivrer, vous. Vous êtes esclaves. Si ce n'est pas de l'argent, si ce n'est pas des hommes, c'est de votre péché. Et contre ça, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes esclaves, vous mourrez dans vos fautes. Et Jésus a décidé de vous arracher à cette mort en livrant sa vie pour vous. Amen. Je voudrais terminer parce que c'est à Pâques, finalement, qu'on comprend tout. Et vous devez considérer Jésus autrement à partir d'aujourd'hui. Dans l'évangile de Matthieu, alors que Jésus est crucifié, il nous est dit qu'il va y avoir d'autres événements assez déroutants. Et un centenier qui est là pour faire exécuter la peine, la sentence, et faire en sorte que chacun reste à sa place, que voilà, il n'y ait pas de mouvement de foule, et qu'on reste calme autant que faire se peut, il maintient l'ordre. Donc il est là, et il assiste à la scène, centenier romain. Imaginez donc, il n'est pas juif, il s'en moque des crucifiés, il en a peut-être connu des centaines. Il a peut-être connu des situations plus dramatiques que cela encore. Lui fait son job, fait son travail, il n'est pas là pour réfléchir, il n'est pas là pour penser, il est là pour exécuter son boulot, son job. Il le fait, sauf qu'à un moment donné, devant une succession d'événements bizarres, ben il va considérer cet homme qui meurt autrement. Et j'aimerais que vous le considériez autrement. Le texte dit, Matthieu, chapitre 27, à partir du verset 45, « Depuis midi jusqu'à 15 heures, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers 15 heures, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani », c'est-à-dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, « Il appelle Eli !» Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge et qu'il remplit de vinaigre. Et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons !» Si Élie viendra le sauver, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des croyants qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui, pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, « Assurément, cet homme était fils de Dieu. Amen. » Alors, pour être totalement honnête avec vous, Je ne suis pas persuadé que ce centenier ait compris que Jésus était le Fils de Dieu. Le texte, dans son étymologie, devrait être traduit comme cela. Certainement, cet homme est un Fils de Dieu. Et n'oubliez pas que vous avez en face de vous un homme à la culture romaine qui a par terre un panthéon de Dieu dans son esprit. La réalité, en tous les cas, il est au moins arrivé jusque-là, c'est que vu tout ce qui se passe, tremblement de terre, une forme d'éclipse, obscurité sur toute la terre, le voile du temple, épais de plusieurs centimètres, qui se déchire depuis le haut jusqu'en bas, il y en avait pour des mètres de hauteur. Tous ces événements, plus tard, les résurrections, cet homme n'est pas bête, il en a vu des crucifixions. Mais il dit, là, ce n'est pas normal. Là, ce n'est pas classique. Là, ce n'est pas habituel. Il s'est passé quelque chose d'anormal. Et pour lui, l'anormal, c'est du spirituel. L'anormal, c'est hors norme. Ce n'est pas de la terre, ça vient d'ailleurs. Alors évidemment, il le dit avec ses mots. Il le dit avec sa compréhension. Il n'est pas de la terre, celui qui vient de mourir. C'est un fils de Dieu, un fils des dieux. C'est quelqu'un qui vient d'ailleurs. Mais pour vous qui êtes quand même avec le recul, avec l'histoire, qui êtes au courant des différentes croyances et qui peut-être avait grandi avec le christianisme, religion monothéiste, vous pourriez dire, certainement devant tant d'événements, certainement celui-ci est le Fils de Dieu, évidemment. Vous pourriez le dire. Cet homme a dit ce qu'il ressentait, mais ce qui est certain, c'est que la mort de Jésus a bouleversé des rois. Avant d'être crucifié, il est passé entre les mains d'Hérode, de Pilate, et on sent que chacun veut s'en débarrasser. On n'est pas très à l'aise avec ce cas particulier. Pilate va se laver les mains, mais ils sont remués, ces gens-là, hein. L'épouse de Pilate va lui dire qu'il n'y a rien entre toi et cet homme. J'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Qui est-il, cet homme-là? Il va même lui poser la question, mais d'où est-ce que tu viens? Qui es-tu? On sent bien que dans ce procès, il n'est pas à l'aise. Jésus a bouleversé les rois. Jésus et sa mort a bouleversé la terre. Comment vous expliquez ce tremblement de terre, cette éclipse? D'aucuns diront, c'est le hasard. Oui, bien sûr. Ce n'est pas toujours arrivé quand même. Ce n'est pas toujours arrivé comme ça. Jésus a bouleversé le règne de la mort. Quand il est ressuscité, ça a tellement remué dans le monde spirituel qu'il y a tout un tas d'hommes et de femmes qui ont ressuscité d'entre les morts. Vous imaginez, dans la ville de Jérusalem, ça a dû faire du bruit quand même, hein ? Eh, regarde, tonton Albert, il est mort depuis 6 mois, qu'est-ce qu'il fait là ? Des morts ressuscitèrent. On peut le dire assez vulgairement comme cela, mais vous comprenez ce que ça signifie? Quelque chose d'étrange, de divin, de surnaturel. Vous ne pouvez pas le comprendre avec votre tête. Et puis, la mort de Jésus a bouleversé l'incrédule, l'ignorant, le centenier. Il ne comprend pas bien ce qui se passe, mais lui au moins, il remarque qu'il s'est passé quelque chose. Il était simplement attentif. J'espère que vous aurez été attentif cet après-midi, suffisamment pour arriver à ce point-là. Est-ce que vous voulez comprendre qu'à Pâques, Jésus-Christ est mort, mais à Pâques, Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Ressuscité le premier jour de la semaine, c'est aujourd'hui, Jésus est ressuscité d'entre les morts. Quand les femmes sont venues le chercher, ou tout du moins au sépulcre, déjà pour aller vers sa sépulture, et que la pierre est roulée et qu'elle ne le trouve pas, un ange va s'adresser à ces femmes en disant « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Je vous en prie, ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant cet après-midi. Jésus est vivant et à cause de cela, il peut tout arranger dans votre vie. Il peut rendre votre vie meilleure. Il peut transformer votre existence. Il peut vous donner d'être relevé. Vous avez l'impression de glisser doucement vers la mort, dans votre dépression, dans votre malheur, dans vos souffrances. Jésus est là pour vous rendre la vie. Il est là pour que cette fête de Pâques 2015, elle soit comme à nul autre pareil. Qu'il se passe quelque chose cet après-midi. Alors que Dieu vous bénisse. L'enfant Jésus, on l'a perdu à Pâques, hein, mais on a trouvé un sauveur. Plaise à Dieu que ce sauveur devienne le vôtre et que votre vie soit bénie. Amen. On s'incline, s'il vous plaît, ensemble et on prie. On va demander à Dieu sa grâce. Voulez-vous prier avec nous? Voulez-vous qu'ensemble, on demande à Dieu sa grâce, sa bénédiction, son secours et sa grâce? Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est bon, il peut agir cet après-midi. Vous avez un besoin, vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, vous avez besoin de grâce, Dieu va vous bénir. On va prier ensemble. Seigneur, nous venons devant toi et nous réclamons ta grâce. Nous te supplions d'étendre ta main, te supplions d'agir maintenant, de te manifester. S'il te plaît, accorde ta faveur et ta grâce. Je t'en prie, manifeste ta puissance. Nous comptons sur toi, Seigneur. Merci de ta fidélité. Merci de ta bénédiction. Ce que nous avons partagé cet après-midi, c'est rien d'exceptionnel. C'est juste la vérité, le moment puissant où Dieu se révèle, où Dieu change les vies, où il transforme tout. Étends ta main, je t'en prie, et glorifie-toi maintenant. Tu es le Dieu de la grâce, tu es le Dieu de la liberté, le Dieu de la délivrance. Si quelqu'un est dans la mort, mort spirituelle, si quelqu'un est comme meurtri dans son corps et sent le mal qui le ronge pour le conduire jusqu'à la mort, j'aimerais que l'esprit de Pâques, l'esprit de vie, vienne et l'habite maintenant et qu'il passe ainsi de la mort à la vie. Je t'en prie, manifeste ta puissance. Parce que la vie nous entraîne jour après jour de la vie vers la mort. Inverse ce processus, je t'en prie, et glorifie-toi maintenant. Je prie pour que celui qui ne te connaît pas te trouve. Celui qui n'a jamais prié te prie maintenant. Celui qui a toujours douté soit persuadé et convaincu que la foi vienne habiter son cœur. Merci de guérir, de te manifester et de te glorifier maintenant, au nom de Jésus. Amen.